Ok, venez avec moi dans Jean 8. À toutes les fois, je dis ça, putain, goût de dire, Jean 10, touchez vos sourcils.
Ben,
ouais. Jean, on va lire en fait la fin du chapitre, à partir du verset 48. Moi, ça dit le nom de la section Jésus et Abraham. Et, tantôt, je disais que Pierre, dans le message de ce matin, est venu à notre rescousse pour comprendre ce qui arrivait dans l'histoire du jeune homme riche. Mais ici, c'est les pharisiens qui viennent à notre rescousse, les leaders religieux, oui. Parce qu'ils nous font comprendre que ce que Jésus a dit, c'était pas acceptable pour quelqu'un qui voulait pas accepter sa divinité. Fait qu'on va, lire les versets 48 à 59. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison? » Puis là, les Juifs, c'est les leaders des Juifs, là. Qui représentait les Juifs. « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as un démon, Abraham est mort. » Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais, semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, « Je suis. » Et là, il nous aide à comprendre c'est quoi que ça veut dire. « Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. » Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il voulait le lapider parce que c'est un sacrilège. Il se fait l'égal de Dieu. Donc, on va considérer aujourd'hui, avec ce texte spécialement, on ne va pas tout décortiquer ce qu'on a lu là. C'est vraiment le verset 58 où est-ce que Jésus... Et ce n'est pas une erreur d'orthographe là, avec les temps de verbe. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ça qu'on va considérer ensemble. Mais un peu par voie d'introduction, ce verset-là, le verset 58, est sans contredit l'un des moments forts du ministère de Jésus. Puis là, quand on dit moment fort, ce n'est pas que justement tout le monde l'acclamait. C'est la tension avec les autorités qui ont fini par le tuer, par le faire tuer. A escaladé d'une coche de plus, là. Parce que là, vraiment, il parlait avec eux autres d'une manière qu'il les contredisait hautement, même s'il disait la vérité. Et là, c'est pour ça que c'est au point où est-ce qu'il était prêt de lapider pour sacrilège, ce qu'on a vu au verset 59. Et je dirais que ici, là, le verset 58, c'est un lien unique et puissant entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance et Jésus et le chaînon qui relie les deux. Parce que Jésus se présente à eux, parce qu'il faut comprendre ici ce que ça signifie, mais c'est ce qu'on voit à travers le message, mais Jésus se présente à eux comme étant la réponse ultime à leurs besoins ultimes. Peut-être que ça nous échappe quand on fait juste voir « avant qu'Abraham fût, je suis », là, mais je vais vous l'expliquer pourquoi que c'est ce que ça veut dire. Et je dirais... Là, ici, c'est avant la croix, mais la réponse, la démonstration ultime que Jésus est la réponse ultime à notre besoin ultime, bien, c'est la croix. Mais déjà ici, ça nous pointait dans cette direction-là. Et dans le fond, le message, vous regardez de façon progressive, on y allait étape par étape, en ajoutant des éléments supplémentaires pour nous faire comprendre l'ensemble ici de ce qui est du bagage théologique qui est dans cette expression « avant qu'Abraham fût, je suis ». Petite expression. Grande vérité théologique. Okay, on va la déballer ensemble. Sûrement, vous êtes familier avec ce passage. Ce n'est pas la première fois que vous lisez ça, pas la première fois même que vous entendez un message là-dessus, probablement. Vous êtes probablement familier avec certains des éléments comme c'est le grand je suis, c'est quoi ça veut dire, quand Dieu dit je suis, bon. Oui, on a parlé de ces choses dans le passé, mais restez avec moi tout le long du message parce qu'on va, comme je dis, de façon progressive, amener toujours plus d'éléments. Puis le punch, la grande leçon est vraiment à la fin lorsqu'on met tout ça ensemble. Ou est-ce que c'est une vérité puissante et personnelle qu'on va pouvoir tirer de tout ça? Non, on va regarder simplement là avec ce verset-là puis tout ce qui peut l'entourer. Trois éléments progressifs pour apprécier la réponse ultime à notre besoin ultime. D'abord, là, quand on voit ici, avant qu'Abraham fût, je suis, ça réfère à Exode 3. La vision, la révélation de Dieu dans le buisson ardent. Okay? Et ça, c'était la préparation de la réponse ultime à notre besoin ultime. Parce qu'est-ce qui arrive dans Exode 3? Je vous lis, Dieu dit à Abraham, je suis celui qui... Abraham, à Moïse. Abraham, c'était là, ça c'est Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. OK? Ça, c'est dans le buisson qui dit ça. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, c'est ça son nom, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ça aussi c'est important parce qu'on va voir ensemble, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Ici, c'est la première fois que Dieu donne son nom de façon claire de même. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait jamais employé ce nom-là avant pour référer à lui, mais ici, il en donne l'explication claire lorsqu'il envoie Moïse vers son peuple pour la délivrance. C'est la révélation du Dieu qui est révélé dans l'Ancien Testament. Puis là, on voit il y a un élément nouveau avec la Nouvelle Alliance, Jésus, là, qui est celui de la Nouvelle Alliance. Mais dans le fond, c'est quoi ce nom-là, « Je suis » C'est la révélation de l'essence de la personne de Dieu, sa nature, son identité. Dieu a plusieurs titres, mais Dieu a un seul nom, et c'est ça, c'est « Je suis », le grand « Je suis ». Voilà pourquoi ici, dans Jean, les Juifs sont si choqués lorsqu'ils écoutent Jésus référer à lui-même en disant « Je suis », parce qu'ils savent très bien qu'il est en train de dire « Je suis la voix qui a parlé dans le buisson ardent à Moïse ». C'est ça que ça veut dire, puis c'était clair, ils l'ont bien compris, là, parce que pour ceux qui ont pris les roches pour le lapider, ils comprenaient qu'ils se faisaient l'égal à Dieu, le Dieu de leur père. Ils disaient, t'as pas, on connaît le Dieu de nos pères, mais toi, t'es qui? C'est là que, justement, tu peux pas te faire l'égal à ce Dieu-là, OK? Pourtant, c'est bien ce que Jésus est. Mais en plus, quand on regarde le contexte plus large, Jésus, là, on voit la tension monter, puis c'était pas mal... Bon, c'était de la faute de ceux qui s'opposaient, qui résistaient. Mais Jésus aussi, on peut dire, pas y provoquer, parce que je veux pas être irrévérencieux en disant ça, mais Jésus leur parlait avec autorité. Par exemple, au verset 24, là, dans Jean 8, là, il leur dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Tu sais, c'est pas comme je vous suggère peut-être de croire moi, ça pourrait être une bonne idée. Non, non, il parle avec autorité. Si vous croyez pas ce que je suis, vous allez mourir, vous allez avoir la conséquence éternelle du rejet, de me rejeter. OK? Donc, voilà qu'on voit, il y a beaucoup la tension qui monte. Puis là, Jésus leur lâche ça, qu'il est le grand je suis. Et c'est parce que ils n'ont pas fait le lien avec ce que Dieu préparait dans l'Ancien Testament puis celui qui était là devant eux autres. Là, je vous dis, c'est des éléments après l'autre, mais d'abord, on va débunker un peu. C'est quoi que ça veut dire « je suis » ou YHWH, là, Yahweh, là, ou l'Éternel, dans nos versions françaises, « je suis », quand il s'est dit « je suis » dans Exode, mais sinon, c'est l'Éternel, la traduction française. Il y a deux sens fondamentaux. Le premier, OK, ce que ça veut dire, là, « je suis », là, d'abord, c'est celui qui est toujours présent. OK? Pour Dieu, il est toujours dans le présent. Je suis. Je suis là. Tu sais, il disait « je suis » à Abraham. Il nous le dit à nous. Puis dans 2000 ans, on va pouvoir dire « je suis » encore. Pour lui, il est dans l'éternel présent. OK? Pour lui, tout est présent. Ou pour le dire, dans Ésaïe 57, j'aime la traduction du roi Jacques, dit qu'il habite l'éternité. En fait, En français, ça ne dit pas exactement ça. Ça dit que j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais en anglais, ça dit « he inhabits eternity ». OK? Je vais vous donner une illustration bien simple. Un matin, quelqu'un a emprunté un livre. OK? Ben, puis c'est un livre qui raconte une histoire. Fait que là, tu vas lire l'histoire de Granger Smith. Tu vas voir son passé, ce qui était présent pour lui quand c'est arrivé, puis OK, le futur. Mais en tant que lecteur, là, le passé, le présent, le futur, pour nous, c'est dans, on dit ça, on est dans le présent. C'est le livre qu'on tient. Ça a beau parler du passé, du présent ou de l'avenir, nous, on est en dehors de ça. C'est constamment présent. C'est un peu, c'est une espèce d'analogie pour essayer de comprendre comment Dieu, là, il n'est pas dans le livre, lui. Il est en dehors. T'sais, nous, on est dans l'histoire. Lui, il est en dehors de l'histoire. Pour vous dire, c'est ça, un des sens du « je suis », c'est ça que ça veut dire. Dieu, pour lui, il voit tout ça. Là, il y a aussi l'illustration de la parade. Là. Dieu voit autant le début de la parade que la fin. Pour lui, tout est présent. Okay? Pour Dieu, nos vies, autant passées, présentes que futures, sont tous au présent, sont tous actuelles. Okay? Je vais dire, je vais arrêter là-dessus sur le premier sens fondamental de « je suis », que Dieu est toujours présent. Le deuxième, et ça c'est important, c'est la signification de son nom, ça veut dire c'est la signification de son nom en relation avec son peuple. C'est pour ça que ça dit dans Exode, « Je suis le Dieu de vos pères Abraham, Isaac et Jacob. » C'est le nom de l'Alliance. C'est le nom qui a sorti à Job après avoir été, pendant tout ce temps-là, à se demander ce qui arrivait, puis Dieu s'est révélé à lui comme l'Éternel, le Dieu de ses pères. C'est le nom qui dit « T'es mon peuple, t'es précieux, t'es spécial pour moi. » Ok? C'est aussi la signification de « Je suis ». Parce que pour les nations, là, c'était Dieu. Ah, le Dieu des Hébreux. Mais pour Israël, c'était l'Éternel. Okay? Donc, il y a ce côté-là personnel et relationnel. Okay? On dit que c'est le nom de l'Alliance de Dieu quand on parle du nom « Je suis l'Éternel ». Okay? Et c'est précisément ça ici qu'il révèle à Moïse. Et savez-vous qu'il y avait un élément de nouveauté? Comme j'ai dit, sûrement que Dieu a pu se présenter en employant ce nom-là, sûrement, à d'autres avant. Mais là, il donnait vraiment l'explication « Je suis celui qui suis ». Ou peut-être que c'était totalement nouveau, parce qu'on lit dans Exode 6, Dieu parlait encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à là, Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été connu par eux. » C'est parce qu'il n'avait jamais dit le nom ou parce qu'il n'avait jamais expliqué le sens du nom. Probablement parce qu'il ne l'avait jamais donné, mais ils savaient que c'était leur Dieu, mais vraiment, ici, une révélation plus complète. Le Dieu qui est en relation avec son peuple. Or, lorsqu'on dit que Dieu est le « je suis », il y a un autre élément qu'il faut comprendre. Là, il y a ce que je vous ai dit, toujours présent, le Dieu de son peuple. Tout le monde est d'accord avec moi? OK? Je n'ai pas fini ce point-là. Dieu préparait, là, Dieu est toujours à préparer dans son œuvre de rédemption, là, il va progressivement. Fait que là, la révélation de son nom, ça préparait pour la venue du Messie éventuellement. Mais il y avait plus que ça. Je suis, puis je pense que je l'ai déjà amené, ce concept-là, mais c'est bon de répéter. La répétition vient la compréhension vient par la répétition. Lorsque Dieu dit « je suis », c'est comme une phrase incomplète, un espace à compléter. Tu sais, quand on a un examen, là, êtes-vous content que c'est les vacances, plus d'examen pendant 2 mois? Des espaces à compléter, bien, c'est un peu ça le nom de Dieu, « je suis ». C'est « je suis, espace à remplir, tout ce dont tu as besoin. » OK? Donc, t'as peur, je suis ta paix. T'es triste, je suis ta joie. Je suis, OK? Bon, vous comprenez ici l'idée. C'est-à-dire que Dieu va devenir, là, si vous voulez, tout ce dont on a besoin qu'il devienne dans le moment présent. Il est la provision pour le croyant qu'il s'approprie. Lorsqu'il est dans son besoin, là, ben Dieu est là, puis c'est lui la réponse. Je suis ce dont tu as besoin, là. C'est ça que ça veut dire, je suis. C'est pas sans importance, là. Je suis ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Donc, on peut dire que là où il y a un besoin, là est l'Éternel. Tu as un besoin? Dieu est là. Il est le qui en réponse à tous nos besoins. N'est-ce pas merveilleux? Parce que Dieu désire changer notre affliction en joie, notre faim en satiété. Puis, il est notre joie, il est notre paix. Il est l'accomplissement, le comble de tous nos besoins. OK? Donc ça, c'est un point important à ne pas négliger. Ça nous aide ainsi à comprendre que la grâce de Dieu répond toujours à un besoin. Et on va parler de la notion de besoin plus en allant vers la fin, mais mettez ça dans le tiroir de votre mémoire. OK? Besoin. C'est pour ça que quand on parle de connaître Dieu, tu sais, t'aimer Jésus, te connaître, c'est un cantique, ou Paul, quand il dit dans Philippiens 3:8, hein, qu'il voit toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, puis quand Pierre, il dit que croissez dans la grâce et dans la connaissance, OK? Quand on parle de connaître Dieu, c'est pas juste quelque chose d'académique et d'intellectuel, mais c'est très relationnel où est-ce qu'on répond, j'apprends à le connaître comme étant la réponse, oh, à ce besoin-là, puis, ah, c'est vrai. Les besoins du corps, du cœur, les besoins, oui, du corps aussi, puis relationnel, tous nos besoins. C'est ça, connaître Dieu, c'est le connaître. Hein? Il est la provision pour tous les besoins que je peux avoir. C'est ça, grandir dans notre connaissance de Dieu, c'est voir comment il est totalement et toujours suffisant pour tous nos besoins. Ou pour le dire, j'aime ce verset, connaissez-vous 2 Pierre 2:12? Tant que vous vous rappelez plus, vous vous en souvenez, mais... Pierre, après avoir parlé les plus grandes promesses de Dieu, puis les vertus de la vie chrétienne et tout ça, il dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Pierre savait que on a besoin de rencontrer Dieu dans notre présent. À être affermi, c'est ça qu'on est Dieu, c'est dans notre moment présent, la provision de sa grâce, elle est là. D'où la simplicité, mais aussi la plénitude de la grâce et de la bénédiction, de trouver simplement tout ce dont on a besoin, simplement en allant à lui. C'est pas une gamique, c'est pas une formule, c'est pas un 20$ au preacher pour qu'il nous bénisse, c'est d'aller à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et savez-vous, puis j'ai presque fini ce point-là, mais rapidement, je vous donne un exemple pour avec le « je suis », là, puis comment Dieu préparait son peuple. Savez-vous qu'à 7 endroits, c'est drôle, hein, 7, c'est ce qui est complet, à 7 endroits dans l'Ancien Testament, l'Éternel se présente comme la réponse aux besoins spécifiques de ses élus. À Abraham, il se présente comme l'Éternel pourvoira, OK, dans Genèse 22. Après, les eaux de Mara, les eaux amères qui n'étaient pas buvables, là, l'Éternel se présente comme l'Éternel qui guérit. Vous êtes malade, je suis votre guérison. Contre Amalek, lorsqu'il se battait dans Exode 17, il se présente comme l'Éternel, votre bannière. Il y avait Nissi, ça veut dire, vous combattez sous ma bannière, vous êtes plus que vainqueur. Les nations ne sont pas impressionnantes parce que moi, je combats pour vous. C'est ça, l'Éternel, votre bannière. Okay? Il répond à leurs besoins dans le combat. À Gédéon qui avait peur, puis il y avait les Madianites et tout ça, l'Éternel, votre paix. C'est lui qui a amené la paix, c'est lui qui a combattu pour eux autres. À David, l'Éternel, votre berger, hein? Psaume 23. À Jérémie qui voyait plein d'injustices, ça allait pas bien dans le temps de Jérémie. Il s'est fait maltraiter, puis tout ça. Il se présente comme l'Éternel, votre justice. Puis là, c'est toute l'idée du Messie qui va amener, qui va établir la justice, puis toute la corruption, il va y mettre fin. Et la toute fin, le tout dernier verset du livre d'Ézéchiel, où est-ce que ça nous parle, de l'avenir bien en avant, là, quand Dieu va restaurer toute chose, l'Éternel est ici. Yahvé Shammah. Donc, l'Éternel qui est présent, si vous voulez. L'Éternel est ici. Allez-vous être surpris si je vous dis que, ça m'amène vers le deuxième point, Jésus-Christ est la source de toutes ces révélations de la provision de nos besoins. Parce que Dieu préparait, mais l'accomplissement de tout ça, du grand je suis, c'est Jésus. Donc, il y a la préparation de la réponse ultime à notre besoin ultime, mais il y a la personne de la réponse ultime à notre besoin ultime. Et cette personne, c'est Jésus. Je vous explique. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? C'est l'ange dans Matthieu 1, 21. Ça, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous, c'est Emmanuel. Jésus, ça veut dire, oui, sauveur, c'est celui qui sauve, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Jésus, Yeshua, OK, toutes les déclinaisons du mot Jésus, ça veut dire sauveur. L'Éternel sauve. C'est ça que ça veut dire. L'Éternel sauve. Parce que Jésus-Christ comble notre besoin le plus fondamental par rapport à notre relation avec Dieu. Parce que c'est bien beau, on a besoin de paix, tout ça, mais le plus grand problème entre nous et Dieu, c'est le péché. Puis on a besoin d'être délivré de ce péché. Et Jésus est celui qui est la réponse ultime à ce besoin ultime. Et c'est là vraiment qu'on voit Jésus rentrer en scène comme étant le Rédempteur, celui qui restaure, qui vient réparer ce qui a été brisé par le péché. Et il nous délivre du péché dans son ensemble. Lorsqu'il nous sauve, il nous sauve de la pénalité du péché qui pesait contre nous, il nous en délivre. Lorsqu'on marche avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu, il nous délivre de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement parce qu'il vit en nous. Et un jour, alléluia, on va être au ciel avec le Seigneur, il n'y aura même plus la présence du péché. Toutes larmes vont être essuyées de nos yeux. Et donc, Jésus nous sauve complètement du péché. Et la vie éternelle commence en allant à Jésus-Christ en tant que pécheur. Hein, je suis pécheur, Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. C'est comme ça que ça commence. Et elle continue ou elle grandit en allant encore au même Jésus, mais en tant que saint qui pêche. Parce que le péché n'est pas éradiqué de nos vies quand on reçoit Jésus comme notre sauveur. Mais on va toujours à la même personne, le même Rédempteur. Ainsi, nous pouvons dire que non seulement là où il y a un besoin, Dieu est là, mais là où le péché est, Jésus est là. Et là, écoutez bien, je vais vous expliquer quelque chose, un autre élément supplémentaire. C'était bien dans l'Ancien Testament que, hey, j'ai besoin de paix, l'Éternel est ma paix. OK, dans la guerre, puis il est notre victoire. Mais un besoin, là, c'est pas toujours coupable. Je vais avoir un besoin très légitime, puis je suis pas coupable. Tu sais, il arrive des choses, justement, il y a une famine, puis tu sais, l'Éternel pourvoira. OK? C'est pas de ma faute, tu sais, à la fin. Bon, on peut dire, bon, OK, Dieu pouvait avoir jugé son peuple, puis tu sais, envoyer la famine, mais vous comprenez? C'est pas toujours nécessairement coupable, un besoin. Parce que là où il y a un besoin, l'Éternel est là. Mais le péché, c'est toujours coupable. Fait que ça m'amène une couche au-dessus, la provision de Dieu en Jésus-Christ. Parce que là où il y a le besoin, Dieu est là, mais Dieu a amené ça plus loin, là où il y a le péché, le coupable, Jésus est là. C'est là qu'on voit la bénédiction de là où le péché a abondé, la grâce de Dieu en Jésus-Christ a surabondé. Et Jésus est venu chercher justement des coupables. Ça nous dit ça dans Luc 19:10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ceux qui étaient perdus dans leur péché, morts dans leur offense et leur péché. Il cherche aussi ses enfants égarés. Comme, tu sais, l'histoire du fils prodigue, on la connaît tous, mais Pierre, on pourrait dire que, je pense que Dieu ne l'a pas laissé aller à lui-même. Ça n'allait pas très bien pour Pierre. Plus ça allait, savez-vous, c'était quoi le problème fondamental de Pierre? Le doute par rapport à qui Dieu est. Parce que Jésus, rappelez-vous, là, Jésus a dit, « Qui dites-vous que je suis? » Il a répondu, hey, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » OK? Il avait bien compris. Là. Il avait une bonne réponse sur qui Dieu est. Mais là aussi, il y avait le doute, c'est quand Jésus disait, « Oui, mais je vais mourir dans les mains des impies. On s'en va à Jérusalem, puis le Fils d'homme va mourir. » Alors, Dieu ne peut pas être le Fils de Dieu comme ça, puis se laisser comme ça, maltraiter, puis comme s'il n'était pas tout-puissant. Il ne pouvait pas accepter que Dieu... Donc, ça va avec son œuvre, mais aussi comme Dieu, dans son essence, d'être celui qui va jusqu'à s'humilier jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça qui persistait dans le cœur de Pierre, puis qui l'égarait de plus en plus. J'ai une application tellement importante là-dessus. Quand on se met à douter des voies de Dieu, finalement, on va en arriver à douter de la personne de Dieu. Parce que il comprenait bien que Jésus n'était pas n'importe qui. Il croyait que c'était le Messie. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais quand venaient les voix de Dieu, là, c'était plus acceptable. C'était paradoxal. Puis je le blâme pas. Je veux dire, c'est dur à accepter comme vérité. Hey, tu es le Messie, tu es le roi d'Israël, puis tu vas mourir dans les mains des impies. Celle-là, ça l'a fait douter. Les voix de Dieu, ils ont fait douter de la personne de Dieu. Je pense pas qu'il revenait en arrière. Ça peut pas être le Messie, mais ça luttait dans son cœur. Non, ça, c'est-tu vraiment le Messie? Non, ça, c'est-tu vraiment le roi d'Israël? OK, c'est... Si... Puis ça, il y a tellement beaucoup à penser par rapport à ça, mais qu'on pense que ça revient vraiment à une expression qui est rendue fameuse dans cette église, là. Le qui des situations et des problèmes. C'est qui fait que c'est tout croche et tu ne comprends plus rien, mais c'est celui qui est au contrôle, puis c'est celui qui t'aime, puis qui n'a pas arrêté de t'aimer, puis qui n'a pas arrêté d'être au contrôle non plus. C'est qui est derrière ça? Puis Pierre, Dieu était bon avec lui. Il l'a ramené. Puis il l'a averti, hein? Il a dit, vous allez tous me laisser. Puis là, Pierre était trop confiant en lui-même, quand même que tous te renierais, moi je te renierais pas. Puis je pense qu'il était très sincère, il voulait vraiment pas. C'est pour ça qu'il a sorti l'épée. Il était sincère, Pierre. Mais Jésus, hein, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre, Satan vous a réclamé, toute la gang, mais toi t'es leader, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Puis, il annonçait déjà, quand tu vas être revenu, tu vas ramener tes frères. Donc, Jésus, il donnait de l'espoir, quelque chose à accrocher, puis je ne sais pas après quoi qu'il s'est accroché, une fois que, tu sais, qu'il pleurait amèrement, qu'il a renié Jésus trois fois, là, puis de façon très spectaculaire, là, je veux dire, il l'a fait avec des imprécations, là. Il a dû repasser ces choses dans son cœur. Donc, Dieu s'occupe de ses enfants égarés parce qu'il est celui qui dit avec les péchés dans nos cœurs en tant qu'enfant de Dieu. Dieu est bon, puis il nous délivre de nous-mêmes à travers ce qu'il permet dans notre vie. Ça, c'est une longue parenthèse qui n'était pas dans mes notes. Là, j'en suis un peu perdu dans mes notes, mais simplement aller à Jésus. C'est pas compliqué. Tu sais, des fois, on veut une explication. Non, viens juste à moi. Tu vas peut-être comprendre plus tard, tu vas peut-être jamais comprendre, mais si tu viens à moi, tu vas avoir la réponse dont tu as besoin. Je suis ta réponse. OK? Donc, Jésus, il est la personne qui est la réponse à nos besoins, à notre besoin le plus fondamental. Parce que c'est lui qui délivre du péché. Puis on dit souvent, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. C'est Christ en nous. Dans le fond, les armes, c'est les moyens par lesquels on s'accroche au Seigneur, à celui qui est notre délivrance. Et donc, Jésus, j'aime ce que ça dit dans Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils à part du Père, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Faites-en pas, si Dieu nous a donné Jésus, il va tout s'occuper de tout le reste en plus. Okay? On a Jésus, on a tout ce dont on a besoin. Il est notre délivrance. Ça nous amène au troisième élément de notre message aujourd'hui. C'est-à-dire que par rapport à la réponse ultime à notre besoin ultime, non seulement il y avait une préparation dans l'Ancien Testament, Jésus est la personne qui est venue révéler toute cette réponse ultime à notre besoin ultime, mais aussi nous sommes les bénéficiaires de la réponse ultime au besoin ultime. On va appliquer ça à nous autres maintenant. Voulez-vous une vérité bien simple là, de dimanche après-midi qu'on a les yeux qui ferment, là? Parce que j'en vois qu'il y a les yeux qui ferment, là. Pas facile des fois le dimanche après-midi, hein? Je vous juge pas, là. OK? Mais on va regarder ça bien simple. Tu sais, voulez-vous quoi? Jouir de la délivrance de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voulez-vous ça? Pas compliqué après-midi, là? Ou on arrête le message là pour continuer la semaine prochaine? Ah là, avec le trou que vous êtes donné, là, je suis aussi bien de vous donner un peu de nanane, là. Écoutez bien. Ah, toi, tu veux pas? Tu parles aux toilettes pendant que je donne la réponse? Ah, monsieur, le spirituel, là. Ah, regardez, c'est pas compliqué, là. On a besoin de se voir dans le besoin. T'as beau parler de la préparation, puis Jésus qui est la personne, mais faut nous se voir dans le besoin. Se voir avec notre péché. Tu sais, la Bible parle que de voir le péché condamnable au plus haut point, puis que là, tu sais, mon péché, là, j'ai fini de l'excuser, puis d'essayer de le redéfinir. Non, j'en ai assez. Dieu, je veux ta délivrance. Je te veux toi. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous diriger vers celui, Jésus, qui est notre délivrance, qui est la provision de Dieu. Et Jésus, la Bible me dit qu'il n'y avait pas grand-chose d'attirant, d'attrait pour le regard, mais ça, c'est si on n'a pas de conviction. Regardez dans la vie de Jésus, là. Les gens qui le méprisaient et qui ont été jusqu'à le crucifier, pourquoi ils ne le trouvaient pas attirant? Parce qu'ils ne se voyaient pas dans leurs besoins. Ils se voyaient bien corrects, eux autres. Ça peut être vrai pour un enfant de Dieu. On peut avoir appris à être autosuffisant dans la culture chrétienne, dans notre petite vie chrétienne, qu'on a tout bien mis ça, là, tout à notre main. Mais Jésus ne sera pas précieux, ne sera pas mon trésor, tant que je ne vois pas que j'en ai tellement besoin. Donc pourquoi je jouirais au plus haut point de Jésus, la réponse ultime à mon besoin ultime, c'est qu'il faut que je me voie dans le besoin. C'est ça la clé. Pour être bénéficiaire de toute cette grâce infinie, faut que je me voie dans le besoin. Et ça, mes amis, c'est la conviction du Saint-Esprit qui fait ça. Et il n'y en a pas d'autre. Parce que les humains, là, on a cette capacité quasi extraordinaire, ou disons-le extraordinaire, de vivre dans l'illusion. Puis les gars, je pense qu'on est bons là-dedans. C'est quand un gars va demander de l'aide, quand il est rendu à quatre pattes, puis que genre il saigne de partout, puis il y a des bleus partout, puis peut-être que j'aurais besoin d'aide. C'est vrai, hein, les gars, avouez. Là. Les filles, souvent, ont plus... Ils ont plus le... Hein?
On demande en essayant encore.
Ouais, c'est ça. Mais, je veux développer l'idée là, que, tu sais, parce que si je dis ça, il faut juste demander à Dieu, il faut juste aller à Dieu, il faut voir notre besoin. Mais si c'était évident que ça, on serait tous des chrétiens top notch, puis wow, tout va bien. Mais pourquoi on a tant de misère? C'est parce qu'on ne se voit pas dans le besoin, donc on ne va pas à Dieu avec nos besoins, puis on tombe dans l'insuffisance, parce qu'on a cette capacité, dans notre orgueil, disons-le, de négliger, voire mépriser la grâce de Dieu et l'avoir. OK, c'est bien, mais pas nécessairement toujours à la hauteur. C'est pour ça qu'on a besoin d'être saisi et d'être convaincu par la réalité de notre besoin. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu va briser l'illusion de l'autosuffisance, va briser l'aveuglement par rapport à notre péché. Puis c'est ça un réveil. C'est quand on se voit tel qu'on est. Tu sais, puis on le chante, c'est tellement beau le cantique qu'on a chanté 52, là, tu sais, j'ai rien. Puis on est bons, les chrétiens, des fois, pour dire des choses, mais pas en être convaincus. Et la façon que les choses sont faites, souvent c'est à travers l'épreuve, à travers ce qui nous arrive, que là, on en devient vraiment convaincu. Là, on le voit. C'est plus juste quelque chose qu'on dit, on le voit. Comprenez-vous quand je dis « juste se voir », c'est simple à comprendre avec notre tête, mais le vivre de cœur et en être convaincu, c'est le Saint-Esprit qui amène ça dans nos vies. Parce que sinon, on peut être des professionnels à dire « Ah ben oui, gloire à Dieu, par la grâce de Dieu, dire le vocabulaire chrétien. » Mais notre cœur peut être éloigné de ces choses. C'est pas précieux, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas vécu relationnellement avec Dieu. Autrement dit, on peut pas voir, on peut pas apprécier la grâce de Dieu à sa juste valeur tant qu'on se voit pas désespérément dans le besoin. Et je répète, désespérément dans le besoin. Parce qu'on va dire, moi j'ai un petit peu besoin de Dieu, fait qu'il peut peut-être m'aider un petit peu. Dieu n'est pas intéressé là-dedans, savez-vous ça? Dieu, là, s'il dit, je veux être ton tout, là, puis tu sais, ma grâce suffisante, là, faut qu'on soit totalement désespéré de toute ressource humaine. Il n'y a pas de département des ressources humaines avec Dieu, savez-vous ça? Dans l'entreprise de Dieu, là, il n'y a pas de ressources humaines, RH, ça n'existe pas. C'est des ressources divines. Il a fermé, puis il a mis un cadenas à la porte des ressources humaines, il n'y a plus personne qui travaille là. Puis là, on est là, on se gonne sur la porte, puis on essaie de l'ouvrir pour comme essayer de voir qu'il y avait de l'espoir de faire quelque chose avec ça. Il a dit non, c'est condamné, il n'y a plus rien à faire avec ça. Il n'y a pas de syndicat avec Dieu. Ouais. Et ça, c'était pas politically correct de dire ça de même. Mais c'est pas grave, Dieu non plus n'est pas politically correct. Ils s'en fichent de la politique, là. Et vous en parlerez à Nebuchadnezzar. Donc, c'est simple, après-midi, là, j'arrête ça là. Le message, ça va au cœur d'un grand problème qu'on voit dans la chrétienté en général, en ce moment. Jésus est bon pour t'aider avec ça, mais t'as besoin peut-être de ci et de ça. Ou, je trouve la délivrance et j'opère ma délivrance avec l'aide de Dieu. Ça, c'est deux phrases qui négligent, voire méprisent la grâce de Dieu. Jésus, notre provision. Puis c'est dans la subtilité. Mais non, on reconnaît Dieu là-dedans, mais pas comme quelqu'un qui en a désespérément besoin. Il y a de l'autosuffisance là-dedans, voyez-vous? Et ça, c'est Dieu qui doit briser ça, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles, puis aux humiliés aussi. Okay? Soit qu'on s'humilie nous-mêmes, soit qu'on laisse Dieu nous humilier à travers ce qu'il nous envoie. Et c'est ça, vivre à la lumière de la croix, c'est vivre dans cette conscience constante de notre besoin de sa provision, de sa délivrance, de son intercession, de sa grâce infinie. Et vraiment, ça m'amène à ceci simplement comme invitation pour répondre au message d'après-midi. Je parlais d'être saisi de ces vérités. Peut-être, vous savez, ça arrive, des fois on a des saisons dans notre vie chrétienne où on est plutôt tiède, notre cœur est plutôt distant. Ben ça aussi, c'est pas plus compliqué. Hey, Dieu, je vois, j'ai besoin de toi, je me sens distant puis tiède. Va à Jésus. C'est juste ça, c'est pas plus compliqué, c'est pas comme si... Puis, savez-vous quoi? En allant à lui, Dieu va nous diriger. Premièrement, des fois, on va ouvrir notre Bible, quand peut-être que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert, puis on va lire, puis boum, le Saint-Esprit va nous saisir avec quelque chose qui va aller droit au cœur. Puis si, puis ça, puis les moyens de Dieu ne sont pas limités. Des fois, on va parler à quelqu'un. Des fois, un non-sauvé va nous parler, puis va nous remettre à notre place. Ça veut-tu déjà arriver, ça? C'est un peu humiliant, là, mais c'est efficace. Dieu peut faire ça. Il n'est pas limité, là. Tu sais? Oh, wow! Ah non, OK, je pensais que c'était la pluie qu'on entendait, c'est la clim qui vient de repartir. Mais il pleut pas mal, d'ailleurs, hein? Là, je vous ai distrait pour la fin du message, hein? Ben, ça veut dire que c'est le temps de prier. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui est totalement suffisante. Mais après-midi, Seigneur, on te demande de révéler à nos cœurs la grandeur, la profondeur de notre besoin de toi. On est bon pour le dire, on sait qu'il faut le dire. Mais Seigneur, on va en avoir la conviction profonde. Par toi. Oui, brise cette autosuffisance, cet orgueil. Seigneur, dans mon cœur, j'ai bien appris bien des affaires de la vie chrétienne que je suis capable de faire moi-même. Et c'est tragique, Seigneur. Je ne veux pas vivre sur le pilote automatique. Je ne veux pas vivre en autosuffisance. Je désire vivre de ta grâce. Et merci que tu as tout pourvu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Seigneur, on veut répondre à ce message en toute simplicité. Donc, dirige, Seigneur, ce temps maintenant où est-ce qu'on veut te parler de toutes ces choses-là. On te prie au nom de Jésus. Amen.